en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le troisième colloque international de l'ADIREL avait lieu du 5 au 8 mars à l'Université de la Sorbonne à Paris sous le thème de la littérature française au croisement des cultures. L'ADIREL est une association qui a été créée en 1988 par un petit groupe d'universitaires et qui travaille à la diffusion de la recherche littéraire. Placé sous le haut patronage de l'Académie française, il était tout à fait naturel que Canal Académie s'y rende. Je vous propose d'écouter l'intervention de Robert Kopp sur la question de l'Antiquité reliée à Baudelaire et au Goncourt, ainsi que son interview qui suit. Monsieur Kopp, qui est professeur de littérature à l'Université de Bâle en Suisse, est correspondant de l'Institut.
Il y a une offensive de l'Antiquité, déjà à la fin de la monarchie de Juillet, et qui continue durant tout le Second Empire, et même un peu au-delà. Le musée d'Orsay en témoigne, il suffit d'entrer dans le grand hall et de regarder les sculptures néoclassiques qui accueillent le spectateur. Depuis quelque temps, Cyrille de Baudelaire, on est en 52, « J'ai tout l'Olympe à mes trousses », et j'en souffre beaucoup. Je reçois des dieux sur ma tête comme on reçoit des cheminées. Et il dit heureusement que Daumier est venu, Daumier qui, ayant précisément à travers ses caricatures de l'histoire ancienne, tout de même une série d'une centaine de caricatures, ce n'est pas épisodique, a illustré ce mot qui nous délivrera des Grecs et des Romains. Daumier, qui s'est brutalement abattu sur l'Antiquité et la mythologie et a craché dessus, et le bouillant Achille, et le prudent Ulysse, et la sage Pénélope, et Télémaque, ce grand dadais, et la Vénène qui perdit Troie, et la brûlante Sappho, cette patronne des hystériques. Et il dit, j'ai un ami, c'est Baudelaire qui parle, qui, en voyant ces blasphèmes, le mot est souligné, vocabulaire religieux, s'est mis à pleurer, car le pauvre, ajoute Baudelaire, avait encore besoin d'une religion. On trouve ici ce mot des Goncourt, l'amour de l'Antiquité tient du sentiment religieux. Alors, on peut réagir différemment vis-à-vis de cette offensive ou contre-offensive à la manière de Baudelaire, à la manière des Goncourt ou à la manière de Maxime Ducamp, disant il ne faut pas célébrer Bacchus et la grappe vermeille, chantons la locomotive, le gaz et le chloroforme. Et ça donne les chants modernes en 55. Donc, il y a cette religion dans l'Antiquité contre laquelle s'insurgent les Goncourt qui note alors chez tous ces destructeurs de foi, ces critiques de bon Dieu, une ladrerie dégoûtante, éclatante. Ces professeurs du progrès s'écrient qu'il y a eu un temps, un pays, une œuvre, un commencement de l'humanité où tout a été divinité, au-dessus de toute discussion d'examen même. Et il se pâme et il admire les mots, etc. Il y a toute une série de citations d'expressions utilisées ou par Renan ou par Sainte-Beuve ou par Paul Saint-Victor dans les fameux dîners de chez Magny où les propos étaient extrêmement libres, tellement libres que lorsque Nietzsche à Nice ayant découvert les premiers volumes des extraits du journal des Goncourt, a dit « Mais ces messieurs, je les connais par cœur, ces libres penseurs, dans ce cercle, il y en a qu'un qui manquait, c'est moi. » Il faut projeter au milieu d'eux, c'était pour lui des professeurs irrévérents. Eh bien, pour le Goncourt, l'Antiquité, c'est d'abord une époque jeune. Ils ont horreur de la jeunesse, une époque saine, ils ont horreur de la santé, jeunesse, santé, vulgarité, ils ont horreur de la grossièreté. Aristophane, le plus gros monument scatologique de la littérature. Eh bien, il n'aime que l'âge mûr, l'âge plus que mûr, la décadence, et il note que la délicatesse de l'esprit est une corruption longue à acquérir au peuple. Et il n'y a que très peu d'auteurs qui échappent à cette santé, cette vigueur et cette jeunesse, comme par exemple Lucien de Samosate avec son dialogue des courtisans. Des côtés barbares, d'autres humains, il y a quand même une réserve. Une seule exception, c'est quelques sculptures. On ne peut même pas dire la sculpture, car quand ils voient la collection Campana à Rome, ils s'enfuient immédiatement, ils ont horreur de l'ensemble de la sculpture antique, ils ont horreur d'ailleurs de l'Italie, ils y sont allés plusieurs fois, un peu par devoir. L'Italie finit par donner la nostalgie du gris, la pluie en revenant à Paris. Il me semble une patrie. Paris, encore une fois, qui nous a, etc., etc. Donc, sous le ciel bleu de l'Italie, là où tous les prospectus nous invitent à nous rendre, ils sont malheureux parce qu'ils n'aiment que la grisaille parisienne. Et trois exceptions dans cet amas de sculptures par ailleurs sans intérêt, c'est le faune Barberini de la Victothèque de Munich, c'est la Psyché du musée Bourbon de Naples, et c'est le torse du Belvédère. Pourquoi le torse du Belvédère? Parce que le torse n'idéalise pas le corps. Le torse, disent-ils, en reprenant violemment Winckelmann, qui aussi en a parlé, le torse digère. Le torse est un ventre dont on voit qu'il travaille. Et il note, contrairement à ce que dit cet imbécile de Winckelmann, qui disait, on voit bien que, bien qu'il soit pris par le mouvement de ses entrailles, que ce corps ne digère pas, non, au contraire, c'est parce qu'il digère qu'il est sublime. Il faut donc choisir le corps, il faut choisir la fonction corporelle si on veut sauver quelque chose. Si on veut sauver quelque chose, et ils le font aussi comme romancier, la science du romancier, c'est, ce n'est pas de tout écrire, mais c'est de tout choisir. De tout choisir, c'est-à-dire les alcooliques, les prostituées, les duchesses historiques, bref, les marginaux de façon générale. Alors, après avoir fait table rase, je me dépêche, car je vois bien dans vos mimiques d'autres fins que des fins purement intellectuelles, et je ne voudrais pas impunément parler de digestion par avance. Ils sont bien obligés de mettre quelque chose à la place de cette antiquité. L'antiquité évacuée à quelques rares exceptions près, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place, car ils ne peuvent pas vivre sans avoir un mythe des origines. Je ne connais peu d'auteurs, sinon peut-être quelques analystes surréalistes, qui peuvent se passer du mythe des origines. Alors, pour faire bref, ils inventent une autre antiquité et ils disent « Notre antiquité à nous, c'est le XVIIIe siècle ». Alors, on pourrait expliquer longuement et en détail quelle est leur position. Car, d'un côté, le XVIIIe siècle était magnifié par des gens comme Michelet, dont ils avaient évidemment horreur. Pourquoi ? Commençons pour le grand siècle, c'est le XVIIIe que je veux dire, par opposition au mythe du XVIIe siècle, parce que la fin du XVIIIe siècle, c'est la Révolution. Or, comparé à Michelet, ils devraient avoir horreur du XVIIIe siècle. Non, ils adorent le XVIIIe siècle, bien qu'il ait mal fini, en quelque sorte. Parce que c'est le siècle de leurs origines morales, artistiques et même familiales. Leur petite noblesse vient de là. Sans vouloir faire du biographisme, c'est tout de même un élément qui pour eux compte, d'autant que sous le Second Empire, on a épuré les listes de la noblesse, on a demandé aux gens de justifier leurs particules, ils se sont vexés des demandes réitérées qui leur ont été faites de justifier leurs particules. Donc, le 18e, c'est le grand siècle, bien qu'il y ait une espèce, c'est le paradis, bien qu'il y ait une espèce de chute dans un péché absolument mortel dans la Révolution. C'est le siècle d'une civilisation poussée à son extrême. Ce que les Goncourt aiment, ce n'est pas ce qui est grand, ce qui est quotidien, ce qui est raffiné. Ils n'aiment pas le grand objet, ils aiment le bibelot. Ils n'aiment pas les grands bâtiments, ils aiment les gentilshommes d'hier à dimensions humaines. Ils n'aiment pas les grands meubles pompeux, ils aiment les petits meubles du style Louis XV et Louis XVI. Et surtout, ils s'intéressent à la vie quotidienne. Et le 18e est le premier siècle dans l'histoire où les documents concernant la vie quotidienne abondent. C'est leur conception de l'histoire qui est ainsi faite. On ne peut pas faire l'histoire d'une époque, disent-ils, en gros, si on n'a pas un menu à dîner et un échantillon d'une robe. Ils sont donc, en quelque sorte, les inventeurs du musée du Carnevalet, quelque part. Et ce 18e, c'est à la fois l'extrême pointe de la civilisation française, le siècle français par excellence, aussi le siècle où la civilisation française a dominé dans toute l'Europe, un siècle tout près de nous. Ce siècle a engendré le nôtre, il l'a porté et formé. Les traditions circulent, les idées vivent, ses aspirations s'agitent, son génie lutte dans le monde contemporain. Et ensuite, il y a la chute et il ne cesse d'opposer, évidemment, ce 18e siècle magnifié au 19e, le siècle du raffinement opposé au siècle de la vulgarité, le siècle des maîtresses royales opposé au siècle de la prostitution, le siècle de la noblesse raffinée opposé au siècle du bourgeois qui n'a pas de goût, Napoléon III allant à l'exposition universelle et achetant pour la couronne, tenez-vous bien, un couvert de table de 800 pièces en bronze doré chez Christophe. Imaginez les rois de France manger dans du bronze doré, dans de l'argenté, le sang des Goncourt ne fait qu'un tour, et ils inaugurent par là le siècle du toc et du simili. Pour nous, ça n'est là toujours pas débarrassé. Donc, c'est ce siècle 18e qui est leur antiquité opposée au temps présent. La révolution politique, évidemment, entraîne une révolution du goût, une révolution des mentalités, et ils se sentent totalement étrangers dans leur siècle, et comme pour d'autres auteurs, Baudelaire, mais aussi Flaubert, le symbole de ces changements, c'est Paris qui se transforme. Notre Paris, le Paris où nous sommes nés, le Paris des mœurs de 1830 à 1848, s'en va. Et ils disent qu'ils se sentent étrangers dans ce nouveau Paris. Je suis étranger, le je vaut pour le nous dans le journal, à ce qui vient, à ce qui est, comme à ces boulevards nouveaux, qui ne sentent plus le monde de Balzac. Leur Paris, c'est le Paris de Balzac, qui reste un Paris médiéval, qui sentent Londres, quelque Babylone de l'avenir. Il est bête de venir ainsi dans un temps en construction. L'âme y a des malaises, comme un homme qui essuierait des plâtres. Donc ils se sentent trop vieux dans des appartements trop neufs. Et c'est ainsi qu'ils bouleversent évidemment aussi toute l'histoire littéraire qui se met en place à la même époque, car il n'y a pas seulement cette contre-offensive offensive de l'Antiquité, si je puis dire. Il y a aussi l'édification du grand siècle par Sainte-Beuve, Nisard, Brumetière, etc. etc. C'est à ce moment-là qu'on commence à publier la collection des grands écrivains de la France avec Molière, La Fontaine, Bossuet, Racine, etc. etc. Or, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent conserver ce que, uniquement ce que Théodore Adorno a appelé le canon des interdits. C'est-à-dire, il ferait une liste canonique des auteurs méprisés. Et ainsi, ils mettent par exemple au-dessus de tous La Bruyère, qui est un auteur mineur, considéré comme mineur à l'époque, et ils disent maintes fois, celui qui ne considère pas La Bruyère comme le plus grand auteur de tous les siècles ne saura jamais écrire. Et il le préfère à Corneille, à Molière, et il l'oppose à tout le XVIIe siècle. Tous leurs contemporains ont plus ou moins recomposé le passé. Si vous prenez la préface de Lamartine aux Méditations, la préface de 49, vous voyez bien qu'il se place dans la tradition de ce qu'il appelle les poètes souverains, infatigables, immortels, ou toujours rajeunis par leur génie. Alors il commence, par Homère, Virgile, Racine, Voltaire, Dante, Pétrarque, Byron, etc., etc., le Gautier de la Comédie humaine, et ainsi de suite. Il y a une espèce de syncrétisme. Ils veulent sauver un maximum. Les Goncourt, c'est le contraire. Ils veulent sauver un minimum. C'est donc une liste à minima, une petite liste d'auteurs. Et ils distinguent soigneusement, par exemple, ils veulent bien Diderot, mais ils ne veulent pas du tout de Voltaire. Celui dont Baudelaire disait « Je m'ennuie en France » parce que tout le monde ressemble à Voltaire. Et donc, il revisite, et il y aurait un joli travail à faire, d'ailleurs, il revisite toute la littérature qui a été mise en ordre par les Sainte-Beuve, Nisard et beaucoup d'autres, dans un ordre tout à fait scolaire, qui en grande partie est encore celui de notre Lagarde et Michard, si vous voulez, il le revisite, et on pourrait faire un assez joli manuel, si vous voulez, des valeurs littéraires, à rebours de la tradition. Et les valeurs littéraires des Goncourt ressemblent beaucoup à la bibliothèque des Essarts.
Monsieur Cobb, donc, en quoi la question de l'Antiquité vous apparaît comme importante aujourd'hui dans ce colloque à traiter ?
Toutes les littératures européennes sont d'abord nourries de souvenirs grecs et romains. C'est le terreau où se nourrissent absolument toutes les littératures, quelles qu'elles soient. Toutefois, cet héritage est contesté car on ne peut pas seulement reprendre, on a aussi envie de créer. On ne peut pas suivre les traces de son père, on a aussi parfois des envies de meurtre, comme dirait Freud, on veut tuer le père. Donc il y a des époques où le conflit est assez violent entre les anciens et les modernes. Cette querelle des anciens et des modernes, on peut en étudier les épisodes au XIIe siècle, on peut les étudier au XVIIe, au XVIIIe siècle, ensuite entre les classiques et les romantiques au XIXe siècle. Mais ce qui est nouveau à partir du XIXe, c'est un rejet chez certains auteurs, pas chez tous, extrêmement violent de l'Antiquité, un rejet qui continuera au XXe siècle par les surréalistes par exemple. Il faudrait aussi faire évidemment un sort à l'histoire de l'enseignement, car cette Antiquité est transmise par l'institution. Et en partie, la révolte contre cette antiquité est aussi une révolte contre un certain système scolaire. Si je cite les surréalistes, c'est que c'est la première génération qui a fréquenté des écoles où les langues modernes avaient autant d'importance que les langues anciennes, en nombre d'heures par semaine. Et ça compte évidemment si vous faites autant d'anglais, d'allemand que de latin et de grec. Et s'ajoute à cela que les surréalistes, ayant constaté que l'humanisme est incapable de vaincre la barbarie, puisqu'ils avaient tous 20 ans dans la Première Guerre mondiale, rejettent aussi cet héritage gréco-latin auquel ils reprochent en quelque sorte l'impuissance d'endiguer le flot de la barbarie. Breton, par exemple, n'a jamais mis les pieds en Italie en guise de protestation. Il dit « Je ne vais pas en Italie, je ne veux pas voir le berceau, prétendu berceau de la civilisation européenne. »
C'était pas un petit peu radical ?
Ah ben oui, bien sûr, c'était même trop radical. Les surréalistes étaient des gens excessifs. Quand on a 20 ans, on peut être excessif, ce qui explique les difficultés de certains surréalistes quand ils avaient 60 ans. Il est plus difficile d'être excessif quand on a 60 ans, mais à 20 ans, ils étaient excessifs, ils voulaient faire table rase. Les dadaïstes encore plus que les surréalistes, bien sûr, sont des positions tout à fait extrêmes.
Le trait commun, donc vous avez évoqué Baudelaire, Flaubert, les Goncourt, le trait commun face à l'Antiquité.
Eh bien, ils sont tous nourris de souvenirs antiques. Ils ont tous fait beaucoup de grec et de latin, surtout du latin, à l'école. Ils connaissent des centaines de vers par cœur et ils réagissent différemment. Flaubert et Baudelaire aimant, sinon toute l'Antiquité, du moins une partie de cette Antiquité, surtout la fin de l'Antiquité, la décadence latine. Quant aux Goncourt, ce sont eux qui vont le plus loin dans le rejet de l'Antiquité à leur époque.
Merci, Monsieur Kopp. Je vous précise que sur le site de Canal Academy, vous pouvez lire le discours de Jean Cluzel, président de Canal Academy et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Un discours à l'occasion du dîner de clôture du colloque de la Direl, où il présente Canal Academy, son histoire et ses objectifs.